Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francis, midi à Conakry, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Guinée, le principal syndicat des enseignants a annoncé ce mercredi la fin de la grève qui paralysait les écoles du pays depuis un mois, après avoir obtenu du gouvernement un accord sur ses principales revendications. La grève est suspendue, a déclaré Aboubakar Souma, leader des grévistes et secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, en se félicitant d'avoir eu gain de cause sur quatre revendications essentielles. Les grandes lignes de l'accord, nul ne sera sanctionné pour fait de grève. M. Souma, entré en dissidence de son syndicat depuis des mois, obtient la levée de la suspension de son salaire et le paiement de ses arriérés. Les enseignants vont bénéficier de l'augmentation des salaires de 40% décidée en 2017 et après une hausse de 10% payée en février, les 30% restants seront effectifs fin mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Par ailleurs, les partis ont convenu d'ouvrir un couloir de négociation du 2 au 25 mai sur un salaire de base de tous les enseignants guinéens de 8 millions de francs guinéens, soit près de 900 dollars. Guinée toujours au plan politique, l'opposition guinéenne organise ce mercredi une nouvelle journée de contestation des résultats des élections locales. Un responsable de la majorité accuse les opposants d'avoir un agenda caché, Raissa Girondin.
De nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui à Conakry. Après une journée ville morte lundi, la seconde en un mois, hier des jeunes ont à nouveau érigé des barricades et brûlé des pneus dans plusieurs quartiers de la capitale. Les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour les disperser. Selou Dalène Diallo, le chef de file du principal parti de l'opposition, rejette les résultats des élections locales du 4 février. Amadou Damaro Camara, le chef du groupe parlementaire du RPG, l'accuse de vouloir créer l'anarchie pour déstabiliser le régime d'Alpha Condé.
Nouvelle violence intercommunautaire au Mali, des affrontements entre les communautés Peul et Dogon dans le centre du pays au cours de la semaine écoulée ont fait au moins 25 morts. C'est ce qu'a indiqué mardi un responsable de la principale association Peul malienne. Aucun bilan officiel n'a été fourni par les autorités de Bamako, mais selon un élu du centre du pays, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, les violences ont fait des dizaines de morts de part et d'autre. Au Nigeria, l'enlèvement de 110 écolières à l'internat de Dapchi dans le nord-est du pays a contré le mouvement Bring Back Our Girls, ramener nos filles, née après le kidnapping des lycéennes de Chibok, à revenir à la charge. Le groupe de soutien a mené une attaque en règle mardi contre le gouvernement nigérian qui l'accuse d'incompétence et de négligence. De la capitale nigériane, le reportage de notre correspondant Gilbert Tamba.
What are we demanding? What are we demanding?
Des slogans des manifestants du groupe Bring Back Our Girls qui réclament la libération des filles de Dapchi, enlevées il y a plus de 3 semaines à Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Ils portent également des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Où sont nos filles de Dapchi ?» La première responsabilité du gouvernement est de protéger des vies et des biens, ou encore « Ramener nos filles maintenant ». Abie Gélis Ezekiezili est la présidente du mouvement.
Sur quelle base et sur l'ordre de quelle autorité les troupes ont été retirées de Dapchi et à qui la sécurité avait été confiée? Où se trouve la preuve du transfert de l'autorité de sécurité et à quelle agence de force de sécurité cette responsabilité avait été donnée?
La même organisation réclame depuis bientôt 4 ans la libération des filles de Chibok enlevées en avril 2014. 112 parmi ces filles de Chibok sont toujours dans les mêmes du groupe terroriste Boko Haram. Mais cette fois-ci, le mouvement menace d'aller devant la justice pour porter plainte contre le gouvernement du président Muhammadu Buhari si les filles de Dapchi et de Chibok ne sont pas libérées dans une semaine. Aïssa Youssouf est membre du mouvement Bring Back Our Girls.
La première responsabilité du gouvernement, c'est la protection des vies et des biens, et le gouvernement nigérien n'a pas assumé sa responsabilité pour les filles de Chibok et de Dapchi et à tout Nigérien qui se trouve en captivité. Et donc, nous n'allons pas céder. nous allons continuer de demander au gouvernement et nous ferons tout dans le respect de la loi pour qu'il assume sa responsabilité. C'est vraiment honteux que nous ayons encore les filles de Dapchi enlevées en ce moment.
Pour l'activiste et avocat Femi Falana, il est inacceptable que le même incident de Chibok en 2014 s'est reproduit dans cette même région.
Considérant les faits et les circonstances de la situation dans cette partie du pays, il est intolérable et inacceptable que le même mode d'enlèvement se soit produit. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'agents de sécurité pour les écoles pour cette région? Et en plus, exactement comme ce qui s'est passé en 2014.
Devant la presse, après son entretien avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, le président Mohamed Bouhari a affirmé que son gouvernement préfère des négociations avec les ravisseurs pour la libération des filles enlevées à Dapchi. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En Sierra Leone, le candidat du principal parti de l'opposition, l'ex-général Julius Maada Bio, a légèrement devancé celui du parti au pouvoir, Samora Camara, lors du premier tour de l'élection présidentielle du 7 mars. Et un second tour aura lieu le 27 mars. M. Bio, le candidat du SLPP, a obtenu 43,3% des suffrages. Il a près de 15 000 voix d'avance sur son concurrent le plus proche, Samora Camara, candidat de l'APC, le parti au pouvoir, qui a recueilli 42,7% des voix.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RDC, nouveau massacre dans l'Ituri, province du nord-est du pays. Ces violences mardi ont fait au moins 30 morts. Et comme les deux précédents massacres dans la région, début et fin février, la nouvelle tuerie a affecté des villages du territoire du Djougou, au nord de Bounia, le chef-lieu de la province. RDC toujours, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires humanitaires a bouclé mardi soir sa mission de 48 heures à Kinshasa. Marc Lecoq a notamment été appelé les autorités congolaises sur le drame humanitaire dont il a été témoin à Kalemie, dans la province du Tanganyika, dans le sud-est du pays. L'émissaire onusien a recommandé notamment l'amélioration des conditions de travail des humanitaires en RDC. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il y a un drame humanitaire à Kalemie, a déclaré d'entrée Marc Lecoq, le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Arrivé à Kinshasa dimanche soir, Marc Lecoq a échangé avec les humanitaires œuvrant en RDC lundi avant de se rendre mardi à Kalemie dans la province de Tanganyika. Les problèmes vus à Kalemie sont très significatifs pour la situation humanitaire de la RDC. J'ai rencontré des familles ayant effectué de longues distances de déplacement et qui ont tout perdu, a-t-il précisé. Marc Lecoq a par ailleurs sollicité auprès des autorités congolaises la révision de la procédure de délivrance des visas aux humanitaires afin qu'ils soient rapides et efficaces, a-t-il précisé. Il a appelé également les autorités congolaises à réduire les taxes et droits des douanes et les redevances pour les opérations humanitaires à travers le pays. Marc Lecoq était accompagné lors de cette conférence de presse tenue à l'aéroport international de Njili de Sigrid Kang, la ministre hollandaise du commerce extérieur et de la coopération au développement. Ils ont tous deux reconnu les efforts du gouvernement congolais pour améliorer l'environnement humanitaire de la RDC dans l'accès à l'éducation, mais appelé à plus d'efforts de la part des autorités de la RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Actualité américaine maintenant, Gina Haspel est la première femme nommée à la tête de la CIA. Mais son rôle dans les prisons secrètes de la CIA pourrait compliquer sa tâche pour diriger l'une des plus grandes agences de renseignement du monde. Eric Maninakiza.
Gina Haspel a 61 ans et doit remplacer Mike Pompeo, choisi pour devenir le chef de la diplomatie américaine à la suite du limogeage hier de Rex Tillerson. Madame Haspel a rejoint la CIA en 1985 et a servi dans plusieurs endroits du monde, notamment à Londres. Sa confirmation pourrait se compliquer. L'influent sénateur républicain John McCain a prévenu qu'elle devra s'expliquer sur la nature et l'étendue de sa participation au programme d'interrogatoire de la CIA dans les centres de détention. Le président de la commission du renseignement du Sénat, le républicain Richard Burr, a déjà annoncé qu'il soutiendrait sa nomination pour ses compétences. Le sénateur démocrate Ron Wyden dit qu'il va s'opposer à cause de son passé. Gina Haspel a été nommée en 2013 à la tête du service national clandestin de la CIA, mais a été remplacée après quelques semaines. Il y a toujours des doutes sur son rôle dans la mise en place de prisons secrètes à l'étranger où des méthodes assimilées à la torture ont été employées pour interroger des suspects. Si sa nomination est confirmée, Mme Hasper sera confrontée à de nombreux défis, notamment sur les ingérences de la Russie dans les élections américaines.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.